Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Nougaro sur parole, de Claude Nougaro. Au fil du livre, les textes des chansons de Claude Nougaro défilent au pied cadencé et dans l'ordre chronologique. Le livre illustre 187 chansons, chansons anciennes, chansons enregistrées de 1962 à nos jours, chansons inédites, la presque intégralité des œuvres de Claude Nougaro, pour la première fois réunies dans un volume illustré des dessins et peintures de l'auteur. Claude Nougaro a dit « Ces couplets ne sont nés que du besoin organique que j'avais de chanter. Ici, je pose le micro et me livre à l'imprimerie silencieuse. Sur l'écran de papier, je vous projette mon cinéma. » Claude Nougaro est né le 9 septembre 1929 à Toulouse. Il est le fils de Pierre Nougaro, chanteur d'opéra, premier baryton à l'Opéra de Paris, 1904-1988, et de Liette Tellini, 1906-2001, italienne et professeur de piano. Ses parents étant souvent en tournée, il est élevé par ses grands-parents paternels dans le quartier des Minimes. Entre 1944 et 1947, il fréquente successivement, en pensionnaire, l'abbaye école de Sorèze, le collège privé Montaigne à Vence, puis le collège de Cussé, près de Vichy, où en 1947, il échoue au baccalauréat. Il se lance alors dans le journalisme et travaille pour un journal à Vichy. En 1949, Claude Nougaro effectue un service militaire à Rabat, au Maroc, une période de 18 mois, dont 10 au cachot. Après quoi, il travaille un temps en Algérie, pour la dépêche de Constantine avant de revenir à Paris chez ses parents. En parallèle, il écrit des chansons pour Marcel Amont, Philippe Clay et rencontre sur place Georges Brassens, qui devient son ami et mentor. Claude Nougaro commence sa carrière sur scène en 1954 en récitant ses poèmes au Lapin Agile, cabaret parisien de Montmartre. Les chansons sont écrites notamment avec son partenaire Michel Legrand. En 1954, Claude Nougaro rencontre Sylvie, qui est hôtesse au Lapin Agile à Montmartre, où il vient d'être engagé. Ils ont une fille, Cécile, en 1962, à laquelle il dédie la chanson « Cécile, ma fille ». Cécile était aussi le prénom de sa grand-mère paternelle. Il divorce en 1965. Le succès ne se manifeste néanmoins qu'en 1962, au début des années Philips et de son directeur artistique Jacques Canetti. En ce début d'année 1960, il introduit de nouveaux rythmes dans la chanson française et compose de nombreuses chansons, inspirées de thèmes et rythmes de jade. En ce début des années 1960, il introduit de nouveaux rythmes dans la chanson française et compose de nombreuses chansons, inspirées de thèmes et rythmes de jazz qui séduisent le public. Un accident de voiture l'immobilise plusieurs mois en 1963. L'année suivante, il part en voyage au Brésil. Au retour, il se produit dans les salles prestigieuses, l'Olympia, le Palais d'Hiver de Lyon, le Théâtre de la Ville à Paris. À la mort de son ami Jaco Di Berti, rencontré en 1952 au De Mago, en 1965, il lui écrit « Un hommage en chanson », « Chanson pour le maçon ». En 1967, il rencontre Odette, d'origine arménienne. Ils ont deux filles, Fanny en 1969 et Théa en 1973. Il se sépare peu après la naissance de Théa. Malgré son opposition farouche à la politique, les événements de mai 68 lui inspirent le torrentiel « Paris-mai », une chanson sur l'angoisse de l'homme de notre temps, qui, jugée subversive, est interdite d'antenne. Sa chanson « Toulouse » est un vibrant hommage à sa ville natale. Dans le même temps, il chante deux titres, « Armstrong » et « Petit taureau », futur classique de son répertoire. Il rencontre Marcia en 1975. Elle est divorcée du guitariste Baden Powell. Ils ont un fils Pablo, né en 1977. Ils divorcent en 1984. Nougaro quitte Philips pour Barclay en 1975. L'île dorée, brésilien, assez, le Coq et la pendule et surtout Tu verras, adaptation française de O que sera de Chico Buarque, compte parmi ses grands succès de l'époque. Enfin, en 1984, il rencontre Hélène, sa quatrième et dernière épouse, sur l'île de La Réunion. C'est une kinésithérapeute toulousaine. Il se marie en 1994. Elle l'accompagnera jusqu'à son décès. En 1987, Claude Nougaro, avec la chanson-titre « Nouga York », obtient l'un des plus grands succès suite à un passage aux États-Unis à New York. Avec les albums, chansons, 1993, et surtout L'Enfant Phare, 1997, le chanteur revient à des sonorités qui lui sont plus familières, jazz et rythmes latinos, mais sa santé se dégrade. En 2000, il sort encore l'album Embarquement immédiat, qui sera son dernier album studio abouti. Il se consacre davantage à des concerts et à des festivals. Il est mort le 4 mars 2004, à 74 ans, à Paris, des suites d'un cancer du pancréas. En 2021, est réalisé le documentaire « La vie rêvée de Nougaro » par Thierry Gage et diffusé sur France 3. Ce documentaire plonge dans l'intimité du chanteur. Plume d'ange. Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande plus de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume. Il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange, je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croie et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange. Adieu et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. « mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là. Il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies, et tu vas voir le monde. » La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit « Fous-moi la paix, je voudrais dormir, et cesse de fumer ton satané népal. » Elle me tourne le dos, et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filai vers mon ami le plus sûr. Je montrai ma plume à l'Afrique, aux poubelles et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidai mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André? Qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste. À dégager! Fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement à la tempe, Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine devant un café, m'expliqua que moi, sensible, moi, enclin au mysticisme sauvage, moi, devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux, précisément, les vrais. Je me retrouve dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire? Que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt, les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame. Et soudain, l'idée m'envahit. Évidente, éclatante. Abandonnons les hommes. Adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants? Oui, mais lequel? Je marchais toujours. Je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants, hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant. Ceux de la rue Saint-Vincent, les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends, et me fiche devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternelles, j'attends, moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîches bouffées, par bouillonnements bariolés. Mon regard papillonne de frimousse en minois, qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jais, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle prend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la boule brune et bouclée, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques cent mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale? Alors, qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale, ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis, un jeudi, je me suis dit. Je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas. J'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne. Ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. « Suivez-nous !» Le commissariat. Vous connaissez les commissariats? Les flics qui tapent le carton avec de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac? Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques. Il roulait les airs. « Asseyez-vous! Il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous! Alors comme ça, on suit les petites filles! » Quitte à passer pour en détraquer, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coup dur, tout cela s'était fini, envolé. « Voyons l'objet !» me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme.
« C'est de loi, ça !» me dit-il. « Je m'y connais, je suis du Périgord. »«
Monsieur, ce n'est pas de loi. » « C'est de l'ange, vous dis-je. »«
Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous avouez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête à défaut de preuves. »« Vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous. Gentiment, hein, gentiment. »
On s'est occupé de moi. Gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme. Très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc, devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, au poil épais et tordu, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se rassembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, sot, je descends. Sot débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence, alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix, qu'il brise d'un seul coup dans sa pomme, crac, pour me les offrir. Un jour, où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet homme introuvable qui veut croire à ta plume, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors, vous me croyez? Vous le savez? Bien sûr, je vous crois. Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus Maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme? Nullement. Je suis un noyer. Vous êtes noyé? Non, je suis un noyé. L'arbre. Je suis un arbre. Il eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieil homme et moi, nous avons ri. Nous avons ri longtemps. Longtemps. Le fou rire, quoi. C'était la chronique littéraire de Gilles Laboureur. À bientôt.